Mais mon propos principal est d'essayer de partager avec vous la parole de Dieu, même si j'ai partagé une parole qui est la mienne. Ah si, peut-être, certains me connaissent peut-être moins. On est mariés avec Françoise depuis 43 ans. On a 3 enfants grands. Notre aîné qui a plus de 41 maintenant, Sylvain, est pasteur en région parisienne. Marie-Cécile, notre fille, s'est mariée cet été. Voilà, elle est bordelaise maintenant. Et notre dernier, Mathieu, est impliqué à l'église de l'avenue du Maine à Paris, l'église baptiste. Voilà. Donc chacun a trouvé aussi sa place avec le Seigneur. Dans mon domaine scientifique, j'ai eu l'occasion, en fait, de peut-être tirer le signal d'alarme dans certaines pratiques. En particulier quand j'ai été amené à travailler sur des cellules souches, j'ai tiré l'alarme par rapport à leur provenance. J'ai essayé de dire qu'il y avait des utilisations de matériel biologique humain éthique et d'autres qui ne l'étaient peut-être pas. Et moi, je me suis toujours refusé de travailler sur des cellules d'origine embryonnaire. Ça, c'était mon choix, ma conviction, et j'ai essayé de dire cela aussi autour de moi, dans mon milieu. Donc, certains ont compris ma démarche, d'autres l'ont pas compris, ont continué leur recherche. Hein. Mais j'ai essayé d'être ce qu'on appelle un lanceur d'alerte. Et je voudrais ce matin vous parler d'un lanceur d'alerte particulier. Donc ce sont des personnes qui, là où ils sont, dans leur environnement, dans leur milieu social, dans leur travail, vont se lever et dire des choses qui peut-être vont déranger. Des choses justes, hein, je parle pas de fausses nouvelles, hein, des choses justes. Un exemple qui me vient en tête, c'est les lanceurs d'alerte par rapport au réchauffement climatique. Hein, des personnes se sont levées pour dire, voilà, on est dans une période où notre climat se réchauffe, et on peut le constater. Moi-même, depuis plus de 30 ans sur la côte, j'ai vu l'évolution, en fait, des saisons et de ce réchauffement. L'apparition de certaines espèces en Méditerranée, animales ou végétales, qui n'existaient pas il y a 30 ans. Voilà, mais parce que la température moyenne s'est élevée, ces espèces peuvent s'implanter et se développer. Voilà. Dire ces choses, informer. Bon, le réchauffement lui-même, c'est un fait, c'est une réalité scientifique. Maintenant, l'interprétation qu'on en a de savoir si c'est une part uniquement humaine ou pas, ça c'est à débattre. Et là, je rentrerai pas dans le débat, c'est pas l'objet de mon propos ce matin. Mais si vous voulez qu'on en discute, on peut en discuter en dehors. Lancer des alertes. La Bible nous donne des exemples de cela. Et des personnages qui ont été ces lanceurs d'alerte, et en particulier dans l'Ancien Testament pour le peuple d'Israël. Quand le peuple de Juda s'est détourné de Dieu pour suivre des idoles étrangères, que Dieu qualifiait de prostitution, Dieu condamne ceux qui le rejettent. Mais Dieu est un Dieu qui veut faire grâce. Et il suscite des lanceurs d'alerte. Il suscite des prophètes qui parlent de sa part pour alerter le peuple et le faire revenir à lui. Et c'est le cas du prophète dont je vais vous parler ce matin. Mais est-ce que vous connaissez quel est le premier lanceur d'alerte dans la Bible? Quel est le premier qui s'est levé et qui a annoncé Ouais, c'est Noé. Voilà. Donc c'est pas tout neuf les lanceurs d'alerte, hein, si on remonte, voilà. Noé était celui que Dieu avait choisi pour dire à l'humanité que ça allait plus, qu'ils étaient dans la dans la perdition parce qu'ils ne suivaient pas Dieu, voilà, et qu'ils étaient englués dans leur péché, dans leur faute, etc., et que Dieu allait les juger, voilà. Et quelle a été la réaction des gens à ce moment-là? Est-ce qu'ils ont tenu compte de cette alerte? Ils ont continué à faire leur vie tranquillement, comme si de rien n'était, etc. Voilà. Jusqu'au jour où le jugement de Dieu est tombé. Hein, sous la forme donc du déluge que nous connaissons. Mais Dieu est un Dieu qui fait grâce et il a permis à Noé de construire l'arche et de sauver sa famille et de continuer en fait avec l'humanité. Et on verra tout au long du processus, en fait, que Dieu agit toujours à peu près de la même manière. Alors, l'exemple que je vais prendre ce matin, c'est Jérémie. Vous connaissez ce prophète, hein ? Est-ce que vous vous rappelez à quel moment il a prophétisé ? Une époque très précise, très particulière. Avant un temps de déportation, pendant et un peu après, hein, donc vraiment une époque charnière. Et pourquoi il y a eu cette déportation du peuple, hein, pourquoi? Voilà, entre autres l'idolâtrie, entre autres parce que le peuple s'était éloigné de Dieu, hein. Et nous, je vous invite à ouvrir vos Bibles là, en Jérémie, chapitre 25, à partir du verset 3. Vous allez voir que le lanceur d'alerte, des fois, il faut du temps hein, pour que ça passe, hein, ce qu'il raconte. Jérémie 25, verset 3. « Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, jusqu'à ce jour, cela fait 23 ans que la parole de l'Éternel m'est adressée et que je vous la transmets sans me lasser. » 23 ans. 23 ans qu'il est au créneau et qu'il annonce... que si le peuple ne se repent pas, il va leur arriver des bricoles. Hein. Mais vous ne m'avez pas écouté. On est toujours dans le même processus. Hein. L'Éternel vous a envoyé sans se lasser tous ses serviteurs, les prophètes, mais vous n'avez ni écouté ni prêté attention à leur message. Il vous disait que chacun de vous abandonne sa mauvaise conduite et ses actes mauvais. Alors vous demeurerez dans le pays que l'Éternel vous a donné, à vos ancêtres et à vous, depuis toujours et pour toujours. Ne courez pas après d'autres dieux pour leur rendre un culte et vous prosterner devant eux, et ne m'irritez pas par des idoles de votre fabrication, alors je ne vous ferai pas de mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, déclare l'Éternel, et vous m'avez irrité par des idoles que vous êtes fabriquées pour votre propre malheur. Voilà. Une annonce récurrente, 23 ans d'annonce, et pas de résultat. Des fois, on peut se demander, quand on est membre d'une église, et qu'on essaye de proclamer l'évangile autour de nous, de différentes manières, de ne pas avoir de fruits. Voilà. Ça fait des années qu'on est là, on essaye de témoigner, on invite les gens, et puis... Il se passe rien. On voit pas l'Église se développer, on voit pas de gens nouveaux venir, se convertir. Pourquoi? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que quelque part il y a quelque chose qui va pas? Je crois pas, non. C'est que le Seigneur est lui seul souverain sur les cœurs, et lui seul peut toucher ceux et celles qui veulent se tourner vers lui. Certes, nous avons notre part à faire. Nous avons à témoigner, à proclamer l'Évangile autour de nous. Mais si nous semons, c'est le Seigneur qui fait croître. Hein, et c'est son Esprit qui met ce germe de l'amour de Dieu dans le cœur de chacun et chacune. C'est pas de notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de témoigner et de proclamer. Après, c'est le Seigneur qui fait, hein. Rappelez-vous la parabole du semeur, hein. Le semeur, il sème. Voilà. Puis il y a des terrains qui reçoivent, il y a des terrains qui reçoivent mal. Il y a des terrains qui reçoivent bien. Mais notre charge, notre responsabilité, c'est de semer. Alors Dieu appelle. Et puis, ça n'a pas l'air de fructifier. 23 ans de bons et loyaux services pour le Seigneur, puis c'est vrai qu'on peut parfois être découragé. Mais le Seigneur a son plan. Le Seigneur ne lâche pas, ne nous lâche pas. Il continue d'appeler. Il rappelle à ceux et celles qui s'éloignent de lui qu'il les aime et qu'il veut le meilleur pour eux. Il veut qu'ils reviennent à lui pour leur donner ce qui est le meilleur. Reprenez avec moi en Deutéronome chapitre 30 ce que Dieu avait promis à son peuple. Deutéronome chapitre 30 verset 15. Voilà ce que Dieu a mis devant nous. Voyez la place aujourd'hui devant vous. Je place d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie. Vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu, dans le pays où vous rendez pour en prendre possession. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir et vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendrez pour en prendre possession. Déjà dans la loi de Moïse, dans la deuxième loi, le Deutéronome, deuxième loi, c'était déjà là. La promesse, mais aussi les mises en garde. Et une promesse bienfaisante pour nous. J'ai mis deux choses en équilibre. La vie, le bonheur d'un côté, la mort et le malheur. Qu'est-ce que vous choisissez? Si on vous propose ça, qu'est-ce que vous choisissez? Oui, quand même, hein. La vie et le bonheur. La quête du bonheur, c'est quand même quelque chose qui motive beaucoup de gens, hein, même des non-chrétiens. Hein. Vie et bonheur. Voilà ce que Dieu nous promet. Mais il y a une condition. Il y a une obéissance derrière, qui doit être la conséquence de cette acceptation. C'est de suivre le chemin qu'il nous trace et d'obéir à ses commandements. Voilà. Tu auras la vie, tu auras le bonheur si tu m'écoutes, si tu m'obéis, si tu me suis, si tu suis fidèlement ce que je te prescris. Et si tu ne suis pas cette voie-là, alors un certain nombre de malheurs vont arriver. Et l'auteur du Deutéronome reprend au verset 19, un petit peu plus loin, cela, il dit, de manière très solennelle, « J'en prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Entre la bénédiction et la malédiction, choisissez la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. » Cette parole est toujours vraie pour nous aujourd'hui. Le pays promis pour nous, c'est le royaume de Dieu, que Jésus est venu instaurer sur terre. Si nous voulons être membres du royaume, et participant à cette royauté, il suffit de suivre Jésus, d'accepter sa mort et sa résurrection pour nous-mêmes, comme le salut de nos vies. Il n'y a rien d'autre à faire que cela. Mais le peuple s'est entêté dans son éloignement, et la justice de Dieu s'est exercée à son égard. Et voilà, les armées de Nabucodonosor sont venues et ont détruit la ville de Jérusalem, le temple, et ont déporté le peuple à Babylone. Le peuple est dispersé, le jugement de Dieu est tombé parce que le peuple n'est pas revenu à lui, à l'Éternel. Il a été dispersé, éparpillé en exil. Mais Dieu est un Dieu qui continue de faire grâce et qui n'abandonne pas l'homme, même si celui-ci désobéit. Il tend toujours une perche, il tend toujours la main et il nous demande de la saisir. Dieu aime son peuple malgré ses fautes, il est prêt à pardonner celui qui se repent. Alors c'est donc encore par Jérémie que Dieu va faire connaître et reconnaître son amour à son peuple, pour lui dire que Dieu a fixé une fin à cette déportation, à cet exil. Jérémie va le dire d'une manière très particulière. Lui est resté à Jérusalem avec quelques-uns, dans les ruines, dans les difficultés. Il est resté sur place, il n'est pas parti en déportation. Et puis, Dieu lui dit d'annoncer à son peuple que ce temps de jugement va prendre fin. L'amour de Dieu est éternel, mais ses jugements sont limités. Ils ont une limite temporelle. Et c'est ce que Jérémie va annoncer. Donc il a préalablement pendant 23 ans annoncé les malheurs, si le peuple ne revenait pas. Ce malheur est arrivé sur le peuple, sous la forme de la déportation et de la destruction. Mais Dieu, par la bouche de Jérémie, va annoncer une parole de grâce. Et c'est une lettre, en fait, que Jérémie va envoyer à ceux qui sont en déportation. Il va écrire de Jérusalem, là où il est, et il va leur envoyer ce message d'espoir. Et nous lisons au chapitre 29 cette lettre. Je lirai du verset 1 au verset 23. Voici le contenu de la lettre envoyée de Jérusalem par le prophète Jérémie à ceux des responsables du peuple qui subsiste en exil, ainsi qu'aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple que Nabucodonosor avait déporté de Jérusalem à Babylone. La lettre fut envoyée après le départ du roi Yéconia, de la reine mère, des fonctionnaires du palais royal, des ministres de Juda et de Jérusalem, des artisans et des forgerons, par l'intermédiaire d'Éléasa, fils de Chaphan, et de Guérémia, fils de Hilkia, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyé à Babylone, à Nabucodonosor, roi de Babylone. Voilà. Toute une partie de l'élite du peuple est déportée. Et Jérémie leur écrit. La lettre disait ceci, verset 4. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter à Jérusalem, de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins et mangez-en les productions. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage pour qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Recherchez le bien de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car son bien-être dépend du vôtre. En effet, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas induire en erreur par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins, et ne prêtez pas attention aux révélations que vous leur demandez, car ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, l'Éternel le déclare. Car voici ce que déclare l'Éternel. C'est seulement au bout de 70 ans alloués à Babylone que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans le pays. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières, et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. L'Éternel le déclare. Je ferai revenir les exilés de votre peuple. Je vous rassemblerai au milieu de tous les peuples étrangers et de tous les lieux où je vous ai, dispersés. L'Éternel le déclare pour vous ramener dans le pays d'où je vous ai déporté. Or, vous dites, l'Éternel nous a suscité des prophètes ici à Babylone. Eh bien, voici ce que déclare l'Éternel au sujet du roi qui est assis sur le trône de David et que tout le peuple et de tout le peuple qui habite cette ville-ci, de vos compatriotes qui n'ont pas été déportés avec vous. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Je vais déchaîner contre eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues pourries qui ne peuvent être mangées tant elles sont mauvaises. Je les poursuivrai par l'épée, la famine et la peste, et je ferai qu'ils inspirent l'épouvante dans tous les royaumes de la terre. Je ferai d'eux un sujet de malédiction, un spectacle désolant. Ils s'attireront les sifflements horrifiés et l'opprobre de tous les peuples au milieu desquels je les aurai dispersés. Parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, déclare l'Éternel. Lorsque je les ai envoyés, mes serviteurs les prophètes, sans se me lasser. Non, vous ne les avez pas écoutés. L'Éternel le déclare. Maintenant, vous tous les exilés que j'ai déportés de Jérusalem à la Babylone, écoutez cette parole de l'Éternel. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, au sujet d'Akab, fils de Kohala, et de Sédécias, fils de Maaseïa, qui vous prophétisent des mensonges en mon nom. Je vais les livrer à Nabuchodonosor, roi de Babylone, et je les ferai exécuter sous vos yeux. On se servira de leur nom dans des formules de malédiction parmi tous les déportés de Juda qui seront à Babylone. On dira en effet que l'Éternel te traite comme Sédécias et comme Akab, que le roi de Babylone a fait brûler vif. Car cela leur arrivera parce qu'ils ont fait une chose infâme en Israël, ils ont commis l'adultère avec des femmes de leurs prochains, et ils ont prophétisé en mon nom des mensonges alors que je ne leur avais rien ordonné. Moi je le sais et j'en suis témoin, l'Éternel le déclare. Voilà, une lettre avec deux volets. Un volet réconfortant, voilà, l'exil prendra fin. Il y a une limite, 70 années. Et vous reviendrez dans le pays que je vous ai donné. Et puis aussi, un jugement. Pour ceux qui n'écoutent pas encore, le jugement va continuer, il sera encore plus terrible. Et il nous donne à la fin cet exemple de deux faux prophètes qui seront exterminés et tués. Alors, cette lettre, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Alors, on n'est pas en exil, hein, on n'est pas forcément dispersé loin de notre lieu de naissance. Hein. Mais qu'est-ce que nous dit cette lettre? Elle nous parle, je dirais, à trois niveaux. Elle nous parle à nous-mêmes, elle parle pour notre entourage, et puis elle parle à notre compréhension, à notre intelligence. Voilà. Il y a trois recommandations qu'on peut prendre pour nous-mêmes dans cette lettre. Tout d'abord, les versets 4 à 6. Nous sommes les uns et les autres dans des villes où Dieu nous a placés. Nous avons notre travail, notre vie, etc. Et Dieu nous dit, construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins, mangez-en les productions. Mariez-vous, ayez des enfants. Mariez vos fils et vos filles, et donnez vos filles en mariage, et qu'elles aient des enfants. Ne laissez pas votre nombre diminuer. Vivons pleinement là où Dieu nous a placés. Que nous soyons intégrés dans nos villes, à Grasse, dans les environs ou ailleurs. Que nous soyons participants à cette vie locale, à cette vie sociale. C'est le moyen d'être reconnu en tant qu'une église locale par les membres qui sont actifs dans la communauté sociale régionale ou locale. Ne vivons pas reclus sur nous-mêmes. Vivons de manière ouverte. Notre Église est aussi une vitrine pour le monde. À la fois, il nous voit, mais aussi nous pouvons, en ouvrant nos portes, en allant vers nos concitoyens, leur annoncer la parole de Dieu, être des témoins là où Dieu nous a placés. Vivez pleinement là où Dieu nous a placés. Participez aux actions sociales, aux associations aussi locales, même de loisirs. Hein. C'est l'occasion de tisser des liens, des amitiés aussi avec des gens de notre village, de notre ville. Et puis, par là même, de pouvoir être des témoins de la grâce de Dieu auprès d'eux. Et de pouvoir, quand l'occasion s'en présente, de leur parler du salut et de la grâce de Dieu. Soyons pleinement là où Dieu nous a placés. La deuxième recommandation que je vois dans cette lettre, elle est au verset 7. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien-être dépend le vôtre. Recherchez le bien-être de la ville. Impliquons-nous peut-être dans la vie de notre communauté urbaine, à différents niveaux, en prenant des responsabilités peut-être, en intégrant un conseil municipal, pour être là aussi témoin de la grâce de Dieu. Alors c'est pas pour être tout le temps, je dirais, un messager de l'Évangile, non, mais simplement en utilisant notre savoir-faire, nos compétences, on peut être utile à ceux qui nous entourent aussi. On peut leur apporter aussi du bien-être, hein, leur apporter aussi ce que Dieu nous a donné, nos dons aussi, peut-être artistiques, peut-être des dons manuels, des dons intellectuels, voilà. Faisons partie, je sais pas, peut-être d'un groupe de randonnée, et puis partageons notre connaissance du pays avec ceux qui viennent. Voilà, c'est une occasion aussi de faire du bien à ceux qui nous entourent, hein, de les aimer, de les avoir sur notre cœur, de les porter sur notre cœur. Et Dieu nous dit que si nous avons cette attitude de rechercher le bien-être de la ville, ben, notre bien-être, il en dépend aussi. Du bien-être de nos concitoyens dépend aussi notre bien-être. C'est réciproque, c'est un échange aussi qui se fait. Et puis la troisième recommandation que je voudrais aussi tirer de ce texte, de cette lettre, hein, c'est que Dieu veut nous apprendre à discerner le vrai du faux, à discerner les vrais prophètes des faux, à exercer notre intelligence et notre jugement sur les choses qui nous entourent. Je vous disais tout à l'heure que, de par mon métier, j'étais confronté à ces questions de bioéthique. Voilà. Discerner ce qui est juste ou pas juste de faire. C'est ça l'éthique. C'est d'avoir un comportement juste dans notre vie citoyenne. Un comportement qui édifie ceux qui nous entourent, qui les aide aussi à se développer, à se construire, hein, qui les encourage. Sachons discerner le vrai du faux. Verset 8. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Ne vous laissez pas induire en erreur par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins, et ne prêtez pas attention aux révélations que vous leur demandez. Ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, l'Éternel le déclare. Voilà. On est à Jérusalem, dans les ruines. Jérémie proclame des choses, d'autres prophètes proclament d'autres choses. Il y a en particulier certains qui disaient qu'au bout de 2 ans, l'exil serait terminé, etc. Jérémie leur a dit, attention, cela ne vient pas de Dieu. Cela vient d'un autre. Et vous verrez ces faux prophètes qui parlent en mon nom, qui disent parler en mon nom, mais que je n'ai pas inspiré, à qui je n'ai pas dit de parler, vont être condamnés. Et vous avez cet exemple à la fin de cette lettre, avec ces deux personnages, Akab et Sédécias. Voilà. Dieu les a condamnés. Il les a fait exécuter. Parce qu'ils ont trompé le peuple en disant des choses fausses. Alors, quand on écoute des choses, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, par exemple, sur Internet. Vous avez le meilleur comme le pire. Et même dans des prédications, on peut trouver très facilement sur des sites des prédications. Mais sachons juger. Utilisons notre intelligence pour discerner si ces prédications sont bonnes ou si elles ne sont pas bonnes. Si elles nous édifient ou si, au contraire, elles peuvent nous perturber et nous emmener sur des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Utilisons notre intelligence. Dieu nous a donné une intelligence. Sachons la mettre en œuvre pour que chacun, vous, les uns les autres, vous puissiez discerner ce qui est juste et ce qui est bon. J'ai pas à vous dire ce qui est juste ou ce qui est bon de faire. Seule la parole de Dieu vous le dit. Mais moi, ce que je peux faire, c'est essayer de vous inciter à utiliser ce que Dieu vous a donné, c'est-à-dire votre intelligence, votre bon sens, pour justement discerner ces choses en lisant la parole de Dieu, en se mettant à genoux, en priant pour demander que Dieu nous éclaire sur des points particuliers, sur des choses qui peut-être nous troublent, que Dieu nous révèle sa pensée par son esprit aussi. Et il le fait, si nous sommes réellement conscients de que nous sommes à son écoute. Parce qu'il y a tellement de choses diverses, de choses variées et avariées dans notre monde, que nous avons vraiment à utiliser notre intelligence pour y voir clair et en demander l'éclairage de l'Esprit de Dieu. Dieu renouvelle sa fidélité, son amour, et il le montre en mettant un terme justement à l'exil de son peuple. Voyons au verset 10, hein. « Ce sera au bout de 70 années allouées à Babylone que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans le pays. » Rappelez, cette promesse, elle était déjà dans la deuxième loi, dans le Deutéronome, nous l'avons lu, que Dieu voulait faire participer ce peuple à ce pays là où il l'avait envoyé. Un terme. Dieu met un terme à ses jugements. Il ne nous laisse pas dans la peine. Et nous pouvons lui demander, si nous sommes peut-être, si nous traversons des épreuves, des difficultés, Seigneur, mets un terme à cela. Je peux plus. Je suis à bout. Tu vois, je ne sais pas ce qui peut se passer si ça continue encore. Seigneur, interviens. Et Dieu est un Dieu qui fait grâce. Il répond, oui. Parfois il répond non, parfois il dit attends. Et Dieu veut souvent exercer notre patience. Pour le peuple, cet exercice, c'est 70 ans. Voilà, pendant 70 ans, ils vont rester en déportation avant de pouvoir revenir dans leur pays. Gardons cette confiance dans le Seigneur, sachant qu'il a un plan, et que ce plan, c'est le meilleur. Nous l'avons vu tout à l'heure aussi dans le texte que j'ai partagé avec vous. Dieu veut nous donner la vie et le meilleur à chacun. Et pour ceux qui continuent de refuser de revenir à lui, de ceux qui sciemment disent non, ça ne m'intéresse pas, et qui continue à rester dans cette position. Dieu dit que le jugement va continuer de s'exercer, peut-être encore de manière plus forte. Nous avons l'exemple dans ces versets 15 à 19 de ce qui s'est passé. On ne se moque pas de Dieu. Arrivera un moment, viendra le vrai jugement, terminal. Celui où nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Et là, nous serons pesés dans la balance de Dieu. Nous serons jugés pour nos vies. Et ceux qui passeront au travers de ce jugement seront ceux qui auront accepté d'être sauvés pendant leur vie, qui auront accepté de reconnaître en Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur, celui qui, par son sacrifice, a payé à la croix et a payé le prix qu'il fallait mettre pour pardonner leurs fautes et leurs péchés. Ceux-là seront déclarés justes. Il n'y a rien à faire si ce n'est qu'accepter cette grâce que Dieu nous fait en Jésus-Christ. Dieu est un Dieu de grâce et qui tend toujours la main vers le pécheur et qui veut le secourir. Alors, écoutons Dieu encore aujourd'hui. Renouvelons notre attachement à lui, soyons lui fidèles là où il nous a placés. Témoignons son amour autour de nous, soyons des ouvriers de paix et d'amour dans nos villes, mais en restant vigilants. Soyons ces lanceurs d'alerte qui proclament que Jésus va revenir et qu'il va revenir pour juger le ciel et la terre. Soyons ces lanceurs d'alerte, même si l'opposition est là. N'ayons pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Mais soyons comme Jérémie pour amener celui qui est éloigné, le rappeler à revenir à son Seigneur. Ramener ceux et celles qui sont perdus en leur proclamant l'Évangile, en leur annonçant la grâce de Dieu, que Jésus est leur sauveur. À lui seul, soit la gloire. Amen. Je vais prier. Seigneur, c'est vrai que tu connais les projets que tu as conçus pour chacun d'entre nous, des projets de paix et non de malheur, afin de nous assurer un avenir plein d'espérance. Seigneur, cet avenir, il est en toi. Il est pour la vie éternelle que tu nous as offert, que tu nous as promise. Seigneur, nous voulons la saisir comme tout à nouveau. Dire que nous voulons effectivement te suivre, sachant que tu as préparé le meilleur pour chacun d'entre nous. Nous voulons rentrer dans tes plans, rentrer dans ce que tu as prévu pour nous de meilleur, et nous laisser conduire par toi, en te demandant sur ce chemin de continuer à nous encourager, à nous fortifier, à nous aider à avancer, à être fidèle à toi, à ta parole, à être conscient que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et que tu nous as mis à cœur cette charge d'être tes témoins ici à Grasse, dans les environs, dans notre région jusqu'aux extrémités de la terre. Merci Seigneur pour la mission que tu nous as confiée, qui est une grâce de ta part. C'est en ton nom que nous te prions et pour ta gloire. Amen.